Le 7-9 de Matin Première.
Belle matinée à toutes et tous, il est 7h47. Bonjour Thomas Guédisseux.
Bonjour à toutes et tous.
Depuis plus de 50 ans, elle observe la politique française. Comment appréhende-t-elle la nouvelle campagne présidentielle? Catherine est notre invitée.
Journaliste, chroniqueuse française, son parcours personnel se mêle d'ailleurs à celui de la 5e République et de ses présidents. La journaliste Catherine Ney publie donc son second tome de ses mémoires, Tu le sais, le temps passe, c'est le titre. Une histoire politique qui va donc de Chirac jusqu'à l'arrivée de Macron. On va parler de cette gauche, de la droite, de l'extrême, aussi des arcanes du pouvoir, et tient aussi de celui de la presse.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour.
Est-ce que la campagne électorale qui s'annonce pour la présidentielle française sera plus violente que jamais ?
Elle sera forcément plus violente parce que la société française en ce moment est beaucoup plus violente qu'il y a 5 ans. Tous les faits divers, au quotidien... Est-ce que la campagne sera plus violente ? Bon, alors, il y a eu l'entrée en campagne d'Éric Zemmour où... qui a été troublé par une dizaine d'anti-fascistes, enfin je ne sais plus d'ailleurs qui c'était, mais ça a duré 10 minutes, quoi. C'est pas, je veux dire, si c'est une violence comme ça, il y a une fille qui a été un peu molestée, on a vu des gens se battre, mais si vous voulez, c'est pas, ça augure peut-être pour l'extrême droite de débat avec l'extrême gauche, l'extrême droite, mais... Moi, je crois que pour cette entrée en matière, il ne faut pas faire d'un chou un potager. Quoi. Mais compte tenu de l'ambiance actuelle en France, il est probable que la
il y a l'événement, les événements lors du meeting, mais il y a surtout peut-être la violence des propos de cette campagne.
Ah ben oui,
le président lui-même va tout par hasard parler d'immigration cet après-midi, justement quelques jours après ce meeting-là. C'est sur les propos peut-être et cette fragmentation de l'échiquier politique en France la complexité de cette campagne va se... Se révéler ?
Oui, il y a beaucoup de candidats, enfin presque tous sont en place aujourd'hui depuis l'arrivée de Mme Pécresse, tous les candidats sont en place, mais
la pièce peut commencer.
Le festival de la présidentielle peut commencer, oui.
Alors, on va écouter ces applaudissements, Catherine, écoutez.
Frau Dr. Angela Merkel.
C'est l'ovation hier au Parlement européen pour le départ d'Angela Merkel après 16 années au pouvoir, une passation quasiment dans le respect. Merkel, qui a d'ailleurs travaillé avec 4 présidents français. Ce qui ressort aussi d'ailleurs dans vos mémoires, c'est que il y a eu De Gaulle, Mitterrand, Chirac, des présidents qui ont réussi à dégager comme une forme d'unanimité présidentielle. Et ce n'est plus le cas. Comment on l'explique en France ?
Mais parce que les Français sont... Vous savez, François Mitterrand est resté 14 ans, mais il a bénéficié du septennat. Mais si on était en quinquennat, en 86, il partait, parce qu'il avait perdu la majorité. Donc il a été sauvé par la cohabitation. Les Français se lassent vite de leurs dirigeants, cherchent toujours autre chose. C'est une constante. Et là, évidemment, c'est le contraire des Allemands qui aiment la continuité. Moi, je ne pense pas qu'une Madame Merkel, en France, aurait duré 16 ans. Parce que d'abord, en France, on aime les gens flamboyants. On s'enthousiasme plus que quelqu'un pendant la campagne. Et puis, on se lasse aussi vite. D'ailleurs, il est à peine élu que les sondages... l'état de grâce dure un mois. Et après, le bashing commence, vous voyez. Donc, nous sommes un pays comme ça, éruptif et qui... c'est une caractéristique française.
Alors, vous dites tous les personnages sont en place, le spectacle peut commencer. Il reste quand même... Une candidature officielle qui manque, c'est celle du président sortant Emmanuel Macron.
Oui, mais vous avez noté qu'il est en campagne. Il est en campagne.
Oui, il est en campagne, mais il ne s'est pas encore présenté, déclaré officiellement candidat. On va revenir il y a 5 ans, Catherine Ney. Nous sommes au début du mois de décembre et François Hollande crée la surprise. Écoutez.
Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
François Hollande, écrivez-vous dans votre livre, c'est l'histoire d'un anti-héros à qui il arrivait des choses extraordinaires. Une sorte, sa bonne étoile d'ailleurs, fut une étoile filante. C'est le cas pour Macron aussi ? Ça sera une étoile filante, vous, Madame Hollande ?
Ah, mais ça, je ne peux pas vous le dire encore. Parce que pour l'instant, contrairement à François Hollande, il est en tête dans des sondages. Alors que François Hollande, 82% des Français ne voulaient pas qu'il se représente.
Vous êtes très dur d'ailleurs avec François Hollande, notamment sur ce moment qu'on vient d'entendre.
Je suis très dur. Je vous dis les chiffres. 82% des Français ne voulaient pas qu'il se représente. Et quand il a été élu contre Nicolas Sarkozy, en fait, il a été élu grâce à l'anti-sarkozisme. Quand il était en campagne, On disait, mais la gauche va battre Sarkozy. Pendant un moment, on pensait qu'il aurait même jusqu'à 60% des voix. Il en a eu 51%. Oui, il a été élu avec 51%. Donc, Nicolas Sarkozy a toujours pensé que si sa campagne avait duré un peu plus longtemps, il aurait été élu. Et à peine était-il élu, il l'a dit lui-même, j'ai pas eu d'état de grâce, j'ai eu un état de glace. Et les sondages disaient, il y a un sondage de la Sofres qui montrait que les Français qui venaient de l'élire ne comptaient absolument pas sur lui, ni pour redresser la situation économique, ni pour rien. Donc, je veux dire, il a commencé en étant presque déjà battu. Oui. Et puis, il n'a pas su s'imposer parce que il n'avait pas. D'abord, il n'avait jamais gouverné, il n'avait jamais été ministre et il n'a pas su faire un récit français, raconter, faire un récit national avec sa politique. Vous voyez, autant Nicolas Sarkozy parlait presque tous les jours. Quoi. Il y avait une carte postale quotidienne, il était toujours.
Parlait aux Français, quoi, dans les
il
médias.
Il parlait aux Français, il y avait une action, il disait. Bon, autant, tout d'un coup, moi j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus d'électricité.
À l'Élysée.
À l'Élysée. Et puis, vous voyez, sa première conférence de presse, il est élu en mai, il la tient en septembre pour dire j'ai un cap, mais on n'avait pas très bien. Et son cap, c'était faire baisser le chômage. Et puis après, il est intervenu 7 mois après pour dire. J'ai une boîte à outils, vous voyez. Alors tout le monde se moquait de lui, les humoristes. Donc non, il n'a pas su. Et puis en plus, il avait ses frondeurs. Enfin, ça s'est assez mal passé.
Et justement, est-ce que la gauche va s'en remettre? Elle est toujours divisée. Hier, la candidate du PS, Anne Hidalgo, a d'ailleurs annoncé qu'elle voulait lancer une primaire à gauche. C'est un peu le sauf qui peut, en fait.
Oui, d'ailleurs, moi,
elle n'arrive toujours pas à s'en remettre.
Elle est candidate. Elle a été investie par son parti à 96% des voix. Et puis. Il n'y a pas eu d'effet candidature, puisqu'elle est toujours à 5%. Donc, moi, je pense qu'il y a un peu dans son offre une forme de sauf qui peut, parce que s'il y avait une primaire, est-ce que ça la remettrait en selle et tout le monde voterait pour elle, donc ça lui redonnerait un souffle, ou au contraire, elle serait battue par, je ne sais pas, Montebourg ou je ne sais qui lui est d'accord pour faire des primaires. Mais comme les autres ne veulent pas faire de primaire, je crois que la réponse, il n'y aura pas de primaire à gauche.
Votre récit, Catherine Ney, c'est surtout un récit d'homme, président. Est-ce que l'heure des femmes est venue? Madame Pécresse à droite, Hidalgo pour le camp socialiste, il y a forcément Marine Le Pen du Front National.
Oui, ben on a déjà eu Ségolène Royal comme candidate. Alors c'est vrai que cette fois-ci, il y a 3 représentantes des grands partis, de ce qui était des grands partis en tous les cas. Donc on va voir, en tous les cas, ça montre que la féminisation est quand même en marche. Et que c'est vrai que pour les Républicains, il y a encore 3 mois, je ne vous aurais pas dit, parce que dans le fond, moi j'étais dans un flou total face à ces 5 candidats. Vous voyez, pendant un temps, Michel Barnier, on s'est dit, il a une tête de président, pourquoi pas, après un président élu à 39 ans, un autre président élu à 70, vous voyez, on passe, puisque on essaie autre chose. Et puis moi, je pense qu'il a un peu raté sa campagne par des propositions un peu malheureuses qui brouillaient un peu l'image. Et puis surtout, il n'a pas entraîné. C'est pas un moteur. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui est un peu, disons, soporifique.
Hein, malgré, et vous avez
malgré bien qu'il ait, moi je dis qu'il a fait un travail pour le Brexit extraordinaire. Et il n'a pas profité. Voyez de cette aura que lui donnait ce travail. Et bon, alors, et puis Xavier Bertrand s'est préparé le premier, mais en disant je suis l'homme qui la rencontre du peuple, et comme il a jamais dépassé 13%, mais il est obligé de revenir dans son parti après avoir dit qu'il n'y reviendrait pas. Donc dans le fond, moi je me disais, mais je l'avais pas prévu, je me suis dans le fond tout conspiré à ce que ça soit elle,
Valérie Pécresse. Quelles sont ses chances face à Macron, justement, et face à
ses chances, c'est que elle arrive et que tous les concurrents, ses concurrents dans le parti, se disent bon, travaillez pour elle, et que il y a l'unité du parti qui semble faite, parce que même Ciotti, qui a eu un ou deux mots comme ça, laissant entendre qu'il pourrait partir, lui a vraiment juré fidélité, lui a dit tu seras mon passe-quoi, donc voilà, ils vont tous s'entendre, et elle peut s'apporter, les Républicains, c'est encore dans la classe politique ce qui tient encore un peu, parce que d'abord il y a plus de 100 députés, c'est le deuxième groupe à l'Assemblée nationale, il y a les sénateurs, la majorité sénatoriale est républicaine, enfin le plus gros groupe, pardon. Et puis, c'est un parti qui repose encore sur beaucoup d'élus locaux, des maires, des conseillers généraux. Donc, il y a une force.
Une force de frappe locale.
Que n'ont ni les socialistes, Et ni Emmanuel Macron dans le parti, il n'y a pas de parti, quoi. C'est quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est
aussi un élément, Catherine Ney, qui ressort de votre livre, notamment avec Bernadette Chirac, la femme du président. Et vous expliquez comment, durant tout le mandat, elle va passer ses jours, ses journées et ses semaines entières à labourer le terrain électoral, à être en contact justement avec ses élus locaux.
Mais parce qu'elle est,
c'était ça la force de frappe justement de ces grands personnages présidentiels. C'était leur ancrage.
Là, c'est un peu singulier le trio Chirac, le père, la fille, moi je dis le Saint-Esprit, Bernadette, parce que d'abord c'est une guerrière et c'est une femme politique qui a acquis sa légitimité en Corrèze, dont elle a été conseillère générale pendant, je sais pas, 25 ans, en étant toujours réélue au premier tour, et qui a mené un travail de terrain où elle se baladait au volant de sa petite Peugeot rouge, et elle voyait tout le monde, elle entrait dans les fermes, chez les commerçants, et elle écoutait et elle rapportait au président l'écho du terrain. D'ailleurs, il ne l'écoutait pas. Elle lui avait prédit qu'en 2002, Le Pen ferait un très bon score. Il lui disait, mais taisez-vous, Bernadette. En tous les cas, c'était une femme politique et qui, pendant la cohabitation, après la dissolution catastrophique, d'ailleurs, elle avait dénoncé la manœuvre en disant que son mari faisait vraiment une bêtise. Et c'est une bêtise, puisque 220 députés ont été battus. Mais elle a conspiré à sa réélection en devenant très, très populaire avec les pièces jaunes et toute son action sociale. Et si bien que cette popularité a rejailli sur son mari. C'est elle qui a lancé, devant Poivre d'Arvor, un soir, elle dit oui, il devrait se représenter après tout ce qu'il fait sur le pays. Et puis après, dans la campagne, il faut dire que Jospin a fait une très mauvaise campagne. Hein, le vieilli usé, là, lui, au contraire, complètement éliminé. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'historique. Et surprise, parce que face à Le Pen, Jacques Chirac a été élu avec 82% des voix. Enfin, c'était encore...
Ce que vous racontez, du coup, cet ancrage local a permis d'installer, du coup, des bases. Et en même temps, vous racontez comment Emmanuel Macron est devenu président sans aucune expérience. Oui. Tout est possible, entre guillemets.
Tout est possible.
Or, vous racontez aussi comment, en politique, on ne doit pas subir l'avenir, on doit le façonner. Qu'est-ce qui, pour l'instant, est en train de ne pas subir justement cette campagne électorale? Quel est le candidat en lice qui façonne lui-même son avenir?
Celui qui essaye en ce moment, c'est Zemmour, hein, qui n'était pas attendu et qui lance. Donc on va voir s'il réussit. Lui, ce qu'il veut, c'est prendre les... Il a fait son meeting le jour anniversaire de la création du RPR. Donc il compte sur des voix de l'ex-RPR, donc des Républicains.
Et vous connaissez bien cette droite française? Il peut la déstabiliser?
Il peut la déstabiliser s'il montait dans les sondages, s'il y a un effet après meeting et s'il dépasse, je sais pas, s'il monte à 20 et s'il talonne le candidat, on ne sait pas. Mais moi, je prendrais pas le pari du tout de ça. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va faire passer Marine Le Pen derrière lui? Parce que pour l'instant, elle est devant lui. Est-ce qu'il va monter? Est-ce que son discours va affadir celui de Marine Le Pen, qui est maintenant une extrémiste modérée face à lui, vous voyez? En tous les cas, mais il a
donc quand vous dites tout est possible, Catherine Ney, ça veut dire que Éric Zemmour au second tour, c'est possible selon vous?
Moi, je ne crois pas du tout.
Vous ne vous engagerez pas, évidemment.
Non, mais je sais pas.
Vous n'y croyez pas.
Mais j'y crois pas du tout.
C'est un récit au cœur des années Chirac, Sarkozy et Hollande. Tu le sais bien. Le temps passe. Souvenir, paru aux éditions Bouquin. Merci beaucoup, Catherine Ney, d'avoir été avec nous ce matin. Vous écoutez La Première. Il est 8h.